Maintenant, considérer la parole de Dieu. Amen. Et en considérant la parole de Dieu, nous allons en même temps nous occuper de notre âme. On a chanté « Mon âme est rafraîchie ». C'est bien. Et maintenant, mon âme, après avoir été rafraîchie, mon âme va être nourrie, n'est-ce pas? Dieu va nourrir mon âme. Et pour ce faire, mes frères et mes sœurs, d'après la direction que m'a donnée le Saint-Esprit, j'aurais aimé continuer avec vous sur le sujet. Nous l'avons partagé, je crois, déjà depuis deux dimanches ou trois dimanches, Jésus dit de ne pas juger. Vous vous rappelez? Alors, qui a fait des progrès dans ce cadre-là depuis? Levez la main. Oh, pas même. Ah, je lève ma main parce que c'est quelque chose qui était de mise dans mon cœur. Ah, tiens, une main se lève là. Alléluia. Écoutez, mes bien-aimés, c'est vrai que c'est un cadre, comme je vous expliquais. Jésus le dit, c'est la même bouche qui a dit « Demandez, vous recevrez ». La même bouche qui a dit « Cherchez, vous trouverez ». C'est la même bouche qui dit « Frappez, l'on vous ouvrira ». C'est la même bouche qui nous parle dans les Béatitudes avec l'expression « Heureux ». Il commence par « Heureux ». Eh bien, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, le royaume des cieux leur appartient. Et c'est la même bouche qui termine les Béatitudes, la neuvième Béatitude. « Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses, qu'on vous outragera, qu'on vous maltraitera à cause de mon nom ». Pleurez toute la journée. Non, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ah, mes bien-aimés, ce que Jésus nous dit quelquefois peut nous interpeller parce que ça va à l'encontre de nos logiques. Et des fois, ce que Jésus dit peut ressembler même à un non-sens. Mais vous voyez dans les actes des apôtres, l'accomplissement de cette parole, les apôtres se réjouirent d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Amen. Ils étaient en plein dedans. Et nous, lorsqu'on subit une petite outrage pour le nom de Jésus, oh, il y a quelque chose en nous qui commence à faire marche arrière. Et puis, une autre chose en nous, la réflexion dit, si c'est ça l'évangile, mais moi, je retourne... Non, c'est une grâce de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est ainsi qu'on a persécuté ceux qui nous ont précédés. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, hein. Le monde ne m'a pas vaincu, mais moi j'ai vaincu le monde. En partant vers le ciel, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et cette paix, c'est le travail, le résultat du travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles et ce matin, je vous invite à regarder avec moi une parole prononcée par Salomon dans le livre des Proverbes. Nous allons la trouver dans le chapitre 23, Proverbe 23, et cette parole se trouve écrite au verset 26. Proverbe 23, verset 26. Merci Seigneur notre Dieu, merci Père au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons l'entamer et... selon ce que Dieu va disposer, il se pourrait que nous y soyons reconduits lors de notre partage, puisque il y a certains sujets, et vous avez remarqué que plusieurs fois, Dieu permet que le sujet soit abordé, mais on y revient parce qu'il y a encore d'autres points que nous n'avons pas pu considérer lors d'un seul service. Vous rappelez, lorsque nous avons étudié le psaume 119, vous rappelez? Ouais. Vous rappelez combien de temps ça a duré? Un an et demi. Un an et demi, le mardi, sur le même sujet. Une étude biblique, parce que le psaume 119 lui a permis que nous l'étudions par thème. Et il y avait, dans chaque apport, une vertu spirituelle bénie qui nous a mené autant à la connaissance et à découvrir comment le psalmiste, conduit par le Saint-Esprit, inspiré de Dieu, peut amener, au travers les divers thèmes, beaucoup de leçons spirituelles importantes pour nous, enfants de Dieu. Alors, Proverbe 23, verset 26. Nous lisons ceci. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » On peut déjà dire « Amen », n'est-ce pas ?« Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et aussitôt après, nous voyons que Salomon est conduit à mentionner le verset 27, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Donc, nous voyons qu'il y a derrière l'expression de Salomon dans l'Écriture, avec l'inspiration du Saint-Esprit, comme une relation qui est faite entre les yeux et le cœur, ou le cœur et les yeux. Mon fils, donne-moi ton cœur, et aussitôt, et que tes yeux, quoi, se plaisent dans mes voies. Et puis le voici qui prend deux images qui, dans la transposition spirituelle, sont très importantes à considérer. Il parle de la prostituée. Prostituée, c'est celui qui se livre au commerce de son corps. Et derrière le mot prostituée, il y a l'idée de la recherche et de la procuration de plaisir charnel. Puis il prend une autre image pour accompagner la première, il parle de l'étrangère. Il y a un puits étroit. Un puits, vous le savez, est une crevasse préparée à recevoir de l'eau et destinée à être utile en cas de besoin, comme une réserve. Or, si le puits est étroit, difficulté de se procurer l'eau et son utilité, malheureusement, ne peut être mise en évidence par rapport au fait de la situation qui est la sienne, qui est le sien le plus étroit. Alors, si nous transposons ça sur le plan spirituel, derrière le mot prostituée, nous pouvons, frères et sœurs en Christ, comprendre l'idée de ce qui attire les regards et qui séduit. Attire le regard pour séduire. Et derrière l'étrangère, transposition spirituelle, nous discernons rapidement les fausses doctrines. Frères et sœurs en Christ, ça c'est la mise en place. Hein? Suivez-moi bien. Hein? Donc nous comprenons pourquoi Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et bien, frères et sœurs en Christ, dans ce que nous venons de considérer, eh bien, nous sommes sur un terrain spirituel, divin, qui découle, et vous serez avec moi d'accord de l'appeler, le terrain de l'éducation divine. Car si Dieu demande notre cœur, et vous verrez bien que c'est pas à des étrangers que cela s'adresse. Puisque si je parle à un étranger, je ne peux pas lui dire mon fils. Parce que dans les proverbes du chapitre 1er au chapitre, jusqu'au chapitre 7, nous voyons que sont mentionnés, ou mis par écrit, ce que nous pourrions définir comme étant des conseils paternels donnés, destinés au fils de la sagesse. Image de Jésus-Christ, la sagesse, et nous qui sommes enfants de Dieu, fils de la sagesse, qui avons été engendrés par Dieu en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et à chaque fois, nous voyons que l'expression « mon fils » arrive avec un enseignement qui sera destiné autant à nous enseigner qu'à nous instruire, qu'à nous édifier, qu'à nous donner aussi à nous, eh bien, former ou nous façonner de telle manière que de plus en plus nous soyons agréables à notre Dieu. Alléluia. Donc, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée, image de la séduction, le plan spirituel, et l'étrangère, image des fausses doctrines, eh bien, c'est comme un puits étroit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Cela veut dire que derrière cela, frères et sœurs en Christ, il y a une exhortation pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Eh bien, je sais que lorsque nous avons cru pour le salut, nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ, n'est-ce pas? J'ai donné mon cœur à Dieu. Mais il arrive quelquefois que le cœur que j'ai donné à Dieu, ou dans le cœur que j'ai donné à Dieu, que Dieu sonde, parce que n'oublions jamais que Dieu sonde les cœurs et les rêves. Eh bien, il s'est amoncelé beaucoup de choses qui, malheureusement, peuvent être préjudiciables pour mon âme, peuvent constituer des freins à mon avancement spirituel, des obstacles à m'empêcher d'avancer à l'aise sur le chemin de la persévérance. Alors Dieu dit ce matin, donne-moi ton cœur. Comme un désir paternel de travailler en nous pour pouvoir enlever ce qui est mauvais, rajouter ce qui est bon, améliorer ce qui me ferait défaut et m'amener véritablement à recevoir de sa part ce qui convient par rapport à ce que lui voit dans mon cœur ce matin. Frères et sœurs, que si vous voyez avec moi le chapitre 23, j'ai compté personnellement et j'ai trouvé sept fois, le cœur, la mise en évidence du cœur dans le chapitre 23, sept fois. Premièrement, le verset 7, ou même le verset 6 pour arriver au verset 7. Mange le pain, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et broie, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre ce matin? Claude, donne-moi ton cœur, afin que tu sois au rang de ceux qui, par le discernement spirituel, peuvent discerner derrière des propositions qui peuvent être faites, un danger latent, quelque chose de nocif. Mange et bois, te dira-t-il. Il veut mettre devant toi des friandises. Mange et bois. Et si au moment où les choses te sont présentées, tu as faim, tu ne calcules pas, tu tombes dedans, tu avales, tu dégustes, mais à l'intérieur, c'est du poison. Tu n'as pas discerné. Mais sur le plan spirituel, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit dans nos cœurs, à partir du moment qu'il est actif, nous emmène quelquefois à des restrictions, à discerner derrière ce qui apparaît beau, qui semble attrayant, qui semble utile, qu'il y a un danger insoupçonné. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Et j'ai bien pris soin de vous expliquer, surtout cela se présente quand nous avons faim. Et l'un des aspects du malin, c'est d'attendre que nous soyons, eh bien, justement, dans une position où, eh bien, ce qui nous serait proposé serait tellement attrayant que nous serions capables de faire marche arrière. Eh bien, c'est un peu le terrain de la séduction. Frères et sœurs en Christ, vous savez que la séduction, ou derrière la séduction, une fois qu'elle est enclenchée, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et derrière cette manière de procéder, celui qui est séduit, il se retrouve dans l'incapacité de prendre une décision avec objectivité. Cela veut dire que derrière la séduction s'installe la complaisance. Séduction, complaisance. La complaisance, c'est lorsque je suis installé dans ce qui m'a séduit et que je suis incapable de prendre une décision contraire. Et dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, nous avons un ennemi qui est redoutable. Il est rusé, il est subtil. Mais mon fils, donne-moi ton cœur. Première chose, pour te donner un discernement autant aiguisé qu'un discernement exercé. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. Une fois que tu as mangé ce qu'il t'a proposé, alors tu vas vomir le morceau. Car et sœurs en Christ, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, avant que nous existions sur la terre, lui, il a été confronté à tout cela. Il s'en commet de péché. Et si ce matin, mon frère, ma sœur, toi, tu es à compter au rang de ceux qui, malheureusement, ont été séduits par une action mise en place par l'ennemi, Jésus te dit, donne-moi ton cœur, afin que je détruise en toi la source de la séduction. Oh, je pourrais aller tellement loin dans ce que je vous dis, mais je vous amène maintenant au deuxième point qui se trouve au verset 12. Et ça va corroborer un peu la première pensée. Ouvre ton cœur à l'instruction et ouvre tes oreilles aux paroles de la science. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Ouvre ton cœur à l'instruction. Et vous remarquerez, frères et sœurs en Christ, il n'a pas dit « ouvre ton cœur d'abord à la science ou à la connaissance ou à l'enseignement ». Il a dit « ouvre ton cœur à l'instruction ». Ceci pour nous montrer qu'il y a une différence entre l'instruction et l'enseignement. La différence n'est pas énorme, mais mon travail pastoral, c'est de vous amener à saisir le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. N'est-ce pas? L'instruction, c'est quoi? C'est ce qui m'est donné, ou ce que je reçois, ou ce que j'ai reçu, mais qui n'aura, eh bien, de sens que dans la mesure de la pratique. L'enseignement m'amène à la connaissance. L'enseignement, c'est la science. Mais je peux avoir beaucoup de science, beaucoup de connaissances, mais cette science et cette connaissance n'auront de valeur devant Dieu que si j'en ai j'ai la pratique. Et l'instruction, c'est pour m'amener à la pratique. Je vous donne un exemple. C'est le même Salomon qui dit « Instruis l'enfant dès sa jeunesse ». Vous remarquez qu'il n'a pas dit « Enseigne l'enfant, instruis !» Et en grandissant, il ne s'en détournera pas. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est instruit depuis l'enfance, c'est comme des poteaux indicateurs, des bases, un centre de gravité, un fondement, une ossature autour de laquelle va graviter notre existence. Je prends un exemple humain. Et vous serez avec moi d'accord. Moi, enfant, j'ai reçu une éducation de mon père et de ma mère. Mais c'est plus mon père. Ça rigolait pas. Oh, ma mère aussi. Parce que je vous assure que quand j'étais enfant, je vous donne une petite image. Chez moi, il y avait deux tamariniers, un devant la maison et un derrière. Le tamarinier, il y avait des branches qui tombaient. Alors, quand mon père sortait du travail, qu'on n'avait pas fait ce qu'il avait demandé, eh bien, il a attrapé une branche de tamarinier avec son couteau, il coupait, il lattait, il liait comme ça. Il dit, viens, par ici. Et après, ça y allait. Ah, j'en ai pris des volets de feuilles de tamarinier. Bon, de tamarinier. J'en ai pris, hein. Mais, et pourtant, je ne suis pas mort. Mais même quand je ne suis pas mort, ça a créé en moi des bonnes valeurs morales. De telle manière que ces valeurs morales se sont installées en moi, ont grandi en moi, demeurent en moi. Mon père est mort en 2017, mais les valeurs sont en moi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai été instruit dès la jeunesse, dès l'enfance. Eh bien, frères et sœurs en Christ, si sur le plan humain cela est valable, à plus forte raison sur le plan divin. Dès lors que Dieu nous a pris en main, il a commencé à nous instruire. Et jusqu'à aujourd'hui, si Dieu dit « donne-moi ton cœur », c'est parce qu'il voit que l'instruction qu'il nous a donnée quand nous étions bébés spirituels, fort souvent fait défaut. C'est un désir pour lui de nous instruire à nouveau. Je vous ai dit que Dieu va nous amener, au travers de cette parole, sur le terrain de l'éducation divine. Hein. Pour ma part, j'ai compris depuis longtemps que jusqu'à ce que je rende mon dernier souffle, je serai à l'école de Dieu. Et je vous assure que je m'y sens bien. Oh, je suis bien dans l'école de mon Dieu. C'est la plus belle école. Parce que l'école de Dieu n'est pas destinée à m'améliorer pour que j'aille au cimetière. Mais l'école de Dieu est destinée à me préparer pour entrer dans le ciel, pour régner avec son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Ouvre ton cœur à l'instruction. Donne-moi ton cœur, mon fils. Et ouvre ton cœur à l'instruction. Laisse-moi t'instruire. Laisse-moi t'instruire à nouveau. Laisse-moi t'amener par l'instruction à un rappel de ce que je t'ai déjà dit. Pour que cela produise son effet dans ton cœur. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul dira à une certaine église, « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. » Et ce matin, Dieu peut-être est en train de nous répéter des choses qu'il nous a déjà dites. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et je voudrais maintenant, frères et sœurs en Christ, vous montrer qu'il y a un rapport entre autant, comme nous l'avons vu, les yeux et le cœur. Mais si nous regardons le verset 33, Proverbe 23, verset 33, nous allons voir qu'il y a un rapport entre le cœur et les yeux. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Je vous ai dit que frères et sœurs en Christ, derrière l'image d'étrangères, il y a les fausses doctrines. L'image spirituelle des fausses doctrines, étrangers. Et vous remarquerez avec moi, frères et sœurs en Christ, ce matin, que lorsqu'une fausse doctrine est entrée dans le cœur de quelqu'un, dites avec moi, ah mais ça sort par sa bouche. Pourquoi ? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Une fois que quelqu'un a adhéré à une fausse doctrine, non seulement ça va sortir par sa bouche, mais ça sortira par sa bouche en direction des autres, parce qu'il cherchera toujours à faire des émules. Il cherchera toujours à ce que d'autres adoptent ce qu'il a adopté. Mais quand vous êtes animé du Saint-Esprit, quand Dieu vous a donné l'instruction et que vous a donné un discernement spirituel, autant aiguisé et avec confirmation, vous vous mettez à le combattre. Vous combattez une fausse doctrine. Oh, des fois, ça fait des étincelles. Parce que lorsque quelqu'un a adopté une fausse doctrine, pour lui, il est dans le vrai. Parce que derrière toute fausse doctrine, frère et sœur en Christ, il y a toujours un aspect attrayant, un aspect séducteur, et puis il y a aussi l'idée de quelque chose de nouveau, et comme on dit chez nous, tout beau, tout nouveau. Mais dans la réalité, on est en dehors du plan de Dieu. Et à cause de cela, on se retrouve nuisible pour l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, dans les églises, frères et sœurs en Christ, ce danger est toujours en évidence. L'apôtre Paul a été confronté à une catégorie de personnes, entre autres Figèle et Hermogène, qui, détruisaient la foi des croyants, disant que la résurrection était déjà arrivée, faisait un grand dégât. Pourtant, c'était des piliers de la communion fraternelle dans l'Église. Un autre accompagné d'Alexandre, Hyménée et Alexandre, eux aussi, c'était un peu le même processus. Ils s'opposaient aux paroles de l'apôtre. Pourtant, l'apôtre Paul est un homme animé du Saint-Esprit, qui savait véritablement ce qu'il était, quelle expérience il avait fait avec Jésus et à quelle utilité Dieu l'avait appelé dans son œuvre. Et quel travail merveilleux il a fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour l'avancement de son royaume. Mais il n'a pas été épargné. Et ce matin, quand je regardais chez moi ce qu'il déclare vers un peu la fin de la course, il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et frères et sœurs en Christ, dans la réalité désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce temps-là, non seulement à moi, et à tous ceux qui ont aimé son avènement. Mais quand vous voyez la vie de cet homme de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il a été aussi amené à combattre de plusieurs manières. Et l'un des combats qu'il a mené victorieusement, il a combattu le complot. Vous savez que dans les églises, frères et sœurs en Christ, des complots peuvent se créer. Comment ça, pasteur Gentilmier? Dans une église, des complots peuvent se créer. Il y a des complots dans certaines églises d'anciens pour mettre le pasteur dehors. Il y a des complots de diacres pour mettre un ancien dehors. Enfin, il y a toutes sortes de sources complotives. Mais lorsqu'une source de complot se forme et que celui contre qui vous complotez est dans le plan, dans la main et dans l'œuvre du Seigneur établie par Jésus-Christ, il y a le risque que vous disparaissiez en fumée, mais que celui contre qui vous complotez, Dieu le laisse à sa place. Vous n'allez pas dire que Pasteur Gentil dit qu'on complote contre lui, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Béni soit Dieu dans cette assemblée. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un ait comploté en ce qui me concerne, mais ce n'est pas pour cela que je dénigre le fait que cela existe. Alléluia. Béni soit Dieu, mes bien-aimés. Vous savez, quand vous servez Jésus-Christ, quand le Seigneur vous a établi dans son œuvre, n'allez pas faire l'unanimité. C'est obligé. Moi, je n'étais même pas encore pasteur, que je ne faisais déjà pas l'unanimité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, tout doucement, me mettait à part. Il commençait à travailler pour me mener sur le terrain du service d'une manière qui n'était pas de mon fait, mais qui était le travail qu'il avait entrepris me concernant. Alors, lorsque j'ai essuyé certains camouflets, certaines attitudes, alors j'ai dit, Seigneur, ben, tu as des yeux, tu vois, tu as des oreilles, tu entends, mais c'est aussi toi qui justifies. Je me garderai, mon Seigneur, de mettre ma main de chair dans quoi que ce soit sur un plan humain. Mais toi, tu vas t'en charger, tu vas t'en occuper. Parce que quand Jésus m'a montré qu'il m'appelle au ministère, pour moi, c'était clair. Vous savez ce que je lui ai dit? Non, vous ne savez pas. Vous voulez savoir? Oui. Je lui ai dit, Seigneur, maintenant, moi, je ne bouge pas. Comment ça, pasteur? Le Seigneur vous dit qu'il vous appelle au ministère, mais vous dites que... Mais oui, je ne bouge pas. Seigneur, tu me montres que tu m'appelles au ministère, mais moi, je ne bougerai pas, Seigneur. Seigneur, je ne bouge pas, mais toi, tu vas t'occuper de tout cela. Oh, on n'allait pas dire que pasteur Jean, tu n'as pas été plus sage qu'un autre. Ça a été ma démarche et mon attitude par rapport à mon communion avec mon Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne bouge pas. Seigneur, je ne bouge pas. Et c'est toi, Seigneur, qui vas t'occuper. Mais le Seigneur a pris les choses en main. Je n'ai pas brassé de l'air, je ne suis pas bougé par là, je ne suis pas allé trouver les serviteurs. Non, je reste à ma place. Sinon, je ne bouge pas. Je n'ai jamais bougé et aucun ministère établi dans cette assemblée ne peut dire « Pasteur Gentil ou Frère Claude est venu me voir ». Jamais. Jamais. Je suis resté à ma place, je dis « Seigneur, tu t'en occupes ». Mais le Seigneur s'en est occupé de telle manière que ça fait près de 20 et quelques années que je suis dans le ministère, je ne puis que bénir Dieu. C'est lui qui a voulu qu'il en soit ainsi. C'est lui, c'est son travail. Ce n'est pas l'homme. Quand malheur à l'homme, si véritablement il veut se placer. Mais quand c'est Jésus qui place, alléluia, quand c'est Jésus qui place, mon bien-aimé, je m'en vous dis que une fois qu'il vous a placé, il va s'occuper de tout ce qui vous concerne. Alors moi, pour conclure ce que je vous ai dit, je vous disais, j'ai vu certains qui s'opposaient à moi de l'aide de Dieu, avec méchanceté. Les uns après les autres, le Seigneur les a écartés. Certains ont connu des difficultés tellement profondes dans leur vie personnelle, dans leur famille même. Ça a secoué. Oh, je ne m'en suis pas réjoui, quand je peux dire que c'est dommage. Parce que lorsque vous causez une fosse, vous faites tomber votre prochain, ce n'est pas moi qui l'ai dit encore. Ah ben c'est vous-même qui tombez dedans. Alors gardons nos frères et sœurs en Christ dans ce cadre-là. Et laissons Dieu nous justifier. Laissons-le s'occuper de ce qui nous concerne. Alors, on continue. Mon fils, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Et puis, il continue encore, verset 15. Toujours en considérant la parole charnière, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mais après, il dit, mon fils, si tu es sage, mon fils, si ton cœur est sage, pardon, si ton cœur est sage, après, mon cœur à moi sera dans la joie. Ah, alors là, il y a deux cœurs. Il y a deux cœurs. Il y a mon cœur et il y a aussi le cœur de Dieu. Mais il y a un cœur qui va se réjouir, c'est le cœur de Dieu. Mais pour que le cœur de Dieu se réjouisse, il faut que Dieu trouve que mon cœur est... Ah, alléluia. Et dans ce cadre-là, mes frères et mes sœurs, on comprend pourquoi ce matin, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que même si j'ai reçu de la part du Seigneur une certaine dose de sagesse, eh bien, il y aura toujours de la place pour que Dieu puisse en rajouter de la sagesse. Amen. Mais ce matin, moi, par la grâce que Dieu me fait, il m'a donné une certaine sagesse. autant de sagesse de langage qu'une sagesse de l'esprit qui m'amène à la réflexion, parce que la Bible le dit, moi la sagesse j'ai pour demeure la réflexion, le discernement, pardon. Sagesse, discernement, et je possède pour science la réflexion. Donc, autant de choses qui sont liées entre elles. Mais dans ce cadre-là, mes frères et mes sœurs, quand Dieu dit ce matin, donne-moi ton cœur, si ton cœur est sage, alors mon cœur à moi sera dans la joie. Venons pour réjouir le cœur de Dieu. Alors, une chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est que Dieu trouve dans mon cœur ce matin que j'ai la sagesse. Et pour la sagesse dans mon cœur, vous savez, quand Dieu regarde dans mon cœur, s'il veut trouver la sagesse sera dans mon cœur dans la mesure où Jésus-Christ aura pris cette place importante, s'installant en moi comme étant ma sagesse, comme étant ma justice, comme étant ma sanctification et l'ensemble découlant de ma rédemption. Et dans ce cadre-là, ce matin, mon frère, ma sœur, certes, Dieu nous a donné à chacun de la sagesse. Mais je suis loin de me dire que j'ai tellement de sagesse que je réjouis le cœur de Dieu par ma sagesse. Certes, Dieu prend plaisir à la sagesse qu'il a mise en moi et à sa manifestation. Mais il y a encore de la place et il y a encore un désir de Dieu de faire grandir cette sagesse en moi. Alors mon fils, voilà, donne-moi ton cœur, afin que j'y rajoute de ma sagesse. On va plus loin? Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. Donc le verset 15, et puis après, aussitôt après, le verset 17, toujours avec le cœur. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Mais, dites avec moi, il est toujours, quoi? Ah, la crainte de l'Éternel. Eh bien, c'est encore un autre domaine, frères et sœurs en Christ, où vous comme moi, eh bien, nous n'aurons jamais assez de faire des progrès. Quelqu'un a dit quelque part, c'est le psalmiste, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Cela veut dire que lorsqu'il a commis cette infamie, il a conduit à préméditer un meurtre, le meurtre de Uri le Héthien, pour prendre sa femme, Bathsheba et tout ce qui s'ensuit, il a reconnu que la crainte de l'Éternel n'était pas du tout dans son cœur. Vous savez, quand la crainte de l'Éternel fait défaut dans un cœur, obligatoirement, la crainte de l'Éternel ou le défaut de la crainte de l'Éternel dans le cœur va permettre une ouverture à la chair ou à la vieille nature pour manifester ses désirs. Vous me suivez toujours, frères et sœurs. Mais la crainte de l'Éternel, c'est un frein à la chair. La crainte de l'Éternel, c'est un frein à la vieille nature. Alors, mon fils, donne-moi ton cœur afin que j'y dépose ou que j'y développe, que j'agrandisse la crainte de mon nom dans ton cœur. Dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, si Dieu ce matin dit « Donne-moi ton cœur », c'est parce qu'il y a encore de la place pour qu'il dépose la crainte. On n'en aura jamais assez. Je répète que la crainte de l'Éternel dans le cœur de l'enfant de Dieu, c'est un frein pour la chair. Mais l'absence de crainte de l'Éternel dans le cœur permet que la chair se retrouve sans frein. Oh, pasteur, je n'étais pas venu pour entendre ça ce matin. Eh bien, oui, mais trop tard, tu es là. Trop tard, tu es là. Tu ne peux pas dire, Seigneur, ça, ça ne me concerne pas. Dieu ne parle pas aux absents. Mon fils! Et après? Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que ton cœur, mon fils, n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Matin, midi et soir. 1er janvier, 31 décembre. En un mot, tous les jours et tout le temps. Seigneur, quand même, tu exagères, hein? Maintenant, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car dans ton cœur, je désire faire grandir la crainte de l'Éternel, la crainte de mon nom. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce matin, Jésus est là, n'est-ce pas? Et même si ce qu'il nous dit semble frapper sous la vieille nature, c'est pour notre bien. Allez, on continue. On continue. Verset 19. Toujours en rapport avec ce que nous avons lu dans le verset charnière. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Regardez. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Et pour diriger ton cœur dans la voie droite, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Mon fils, donne-moi ton cœur. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur vers la voie droite. Ça veut dire que quand Dieu permet que mes pas soient dirigés vers la voie droite, c'est-à-dire là nous sommes sur le terrain de la marche spirituelle, et bien obligatoirement, frères et sœurs en Christ, quand nous avons une marche qui est agréable à Dieu, il est parlé de l'ivrogne. Qu'est-ce qu'une ivrogne, frères et sœurs en Christ? Ah ben c'est celui qui se livre à la boisson. Et lorsque quelqu'un se livre à la boisson, ce qui est spirituel en lui n'est pas touché. C'est ce qui est humain. Après, il va parler aussi de l'ivrogne qui se livre à des excès qui s'appauvrissent, mais aussi, il est parlé de l'assoupissement. Que fait l'assoupissement? Fait porter des... Alors, si vous voyez quelqu'un qui porte des haillons, automatiquement, vous vous arrêtez votre regard. Et dans votre esprit, il y a quelque chose qui va se mettre à travailler parce que vous allez discerner que derrière ce que vos yeux voient, quelqu'un qui porte des haillons, il y a toute une chaîne de référence pour vous amener à pourquoi il porte des haillons. Car si quelqu'un porte des haillons, c'est pas normal. Mais sur le plan spirituel, si je porte des haillons, cela veut dire qu'il y a quelque chose en amont qui n'a pas marché, qui ne marche pas, qui ne va pas. Parce qu'un enfant de Dieu ne porte pas des haillons sur le plan spirituel. Un enfant de Dieu porte le vêtement du salut, son âme est habillée de la justice de Christ, et il sait que sur un plan extérieur, il doit montrer un peu ce qu'il est à l'intérieur. Parce que moi, quand je viens au service pour Christ, je vais rencontrer le roi. Et quand je vais rencontrer le roi, je veux que ma tenue vestimentaire, mon maintien, ce qui est montré, soit à l'image de mon rang. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un porte des haillons, il faut souvent Ce sont les clochards qui portent des haillons. Qu'est-ce qu'un clochard? C'est quelqu'un qui, sur le plan social, a connu une dégradation et qui se retrouve malheureusement au banc de la société. Ce matin, Dieu ne veut pas que tu portes des haillons. Alors, pour pas que tu portes des haillons sur le plan spirituel, il dit, mon fils, dirige ton cœur vers la voie droite. Alors, tout ce qui est de la voie droite, c'est ce qui est dans l'Écriture. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Jésus, ce qui vient du Saint-Esprit, ce que Dieu m'a donné à posséder quand j'ai cru pour le salut et que progressivement, dans son école, il va développer en moi. Vous êtes en Christ dans l'Église de Christ, dans l'école de Dieu, laissez-moi vous dire, pas la peine de croire qu'il y a des élèves surdoués. Non, chacun est à sa mesure. Une fois que Dieu a commencé son travail en nous, je vous le dis, en nous, comme enfants de Dieu, il y a des choses qui vont très bien. Béni soit Dieu. Il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont moins bien. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Vous avez vu, frères et sœurs, qu'est-ce que je commençais par le très bien pour arriver à ce qui ne va pas du tout. Mais ce matin, puisque Dieu sonde les cœurs, mon fils, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu ne me fait pas de leçons, il me donne une direction, résultat de son enseignement, accompagné de l'exhortation nécessaire, pour que je puisse faire devant lui ce qui est juste. Allez, je vous donne encore, ah ben c'est l'avant-dernier, puisque le verset 26, c'est « Mon fils, donne-moi ton cœur », c'est ce que nous avons pris comme référence depuis le commencement. Et puis tout à l'heure, j'ai vu avec vous le verset 33, « Tes yeux se porteront sur les étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. » Alors mon fils! Alléluia! Excusez-moi. Mon fils! Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Est-ce que c'est le vœu de ton cœur ce matin? Oui? D'accord. Ce n'est pas la peine de dire oui pour faire plaisir au pasteur. Hein? Car le pasteur ne peut rien faire dans ton cœur. Celui qui fait tout dans le cœur, c'est lui, notre maître. Alors, ce qu'il nous dit ce matin, frères et sœurs en Christ, et c'est ce qui correspond à sa volonté pour la vie de chacun d'entre nous ce matin. À son désir d'œuvrer en nous comme ses enfants. On n'est pas des étrangers, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes ses enfants rachetés. Nous avons un cœur qu'il sonde. Et puis Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, verset 8, me rappellera que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme, car ce qui sort de la bouche de l'homme vient de son cœur. Son cœur. Et quelquefois, frères et sœurs en Christ, comme nous venons de le voir, il faut nous avoir un langage qui est le résultat de ce qui s'est amoncelé en nous et dans nos cœurs. Et quand Dieu nous écoute parler quelquefois, vous lirez chez vous Éphésiens 5, eh bien, la Bible dit même, c'est pourquoi il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais si vous le faites en secret, vous n'êtes pas vu des hommes, mais celui dont les yeux parcourent la terre et qui semble juste, voit bien que votre attitude, vos œuvres, nos œuvres, sont forcément le résultat de choses qui se sont amoncelées en nous et qui malheureusement peuvent être préjudiciables pour nos vies, pour nos âmes, pour notre marche comme enfants de Dieu, et qui nécessitent quelquefois que ce qui s'est amoncelé en nous, dans lequel nous pourrions un temps soit peu nous complaire, sera véritablement un frein. Alors, l'exhortation ce matin, il est pour moi, elle est pour moi, elle est pour mon frère, elle est pour ma sœur, elle est pour nous, le peuple de Dieu. Mon fils, et que se plaise. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste et notre Dieu, un grand merci ce matin pour le partage et la méditation de ta parole, ton exhortation, et ce que tu manifestes comme un désir de voir ton enfant ce matin à nouveau en te recommandant son sort, te donner son cœur, afin que, mon Dieu, désormais, tu œuvres, et à partir du moment que tu as œuvré, alors les yeux pourront se complaire dans tes voies. Car dans le cas contraire, mon Seigneur, il y a la séduction qui galope en plein midi, il y a toutes sortes de travaux entrepris par l'ennemi de notre âme pour, Seigneur mon Dieu, nous freiner dans notre marche, nous arrêter sur des choses inutiles, comme une perte de temps, et il arrive quelquefois à nous conduire à négliger ce qui est essentiel au profit de choses, Seigneur, futiles. Mais ce matin, tu nous rappelles, mon fils, donne-moi ton cœur.
Alléluia.
Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Oui, Père, nous voulons que véritablement, toi, tu œuvres en nous par ton esprit. Que ta grâce soit le partage de nous tous. Un grand merci, Père, au nom de Jésus. Mon Père, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Alléluia. Amen.